Je vais vous parler d'une expérience relativement récente parce qu'en fait, l'Institut universitaire de formation des enseignants à Genève vient d'entamer sa deuxième année et j'étais engagée pour la didactique de la physique, ce que je ne faisais pas avant puisqu'avant j'étais dans l'Institut de formation des enseignants qui dépendait du département de l'instruction publique pour les maths. Donc je me suis retrouvée à changer de discipline, ce qui est très intéressant. Mais ça veut dire que je n'ai pas des années d'expérience derrière moi. Avec mes collègues formateurs de chimie et puis l'autre formateur de physique, on pensait que c'était important de travailler avec les étudiants sur l'analyse a priori, peut-être pas vraiment sur l'analyse a priori telle qu'elle est définie par les didacticiens, mais sur un de ces avatars qu'on appelle parfois analyse préalable. Mais enfin, l'idée, c'est que les étudiants travaille un tout petit peu à l'avance sur, en réfléchissant à ce qui va se passer. Et donc, on l'a défini de la façon suivante. Ben, on va se pencher sur un problème que les élèves vont à résoudre et on va se demander quel est réellement le problème que les élèves vont avoir à résoudre. Qu'est-ce qui suffit à l'élève de savoir ou de savoir-faire pour comprendre la consigne et qu'est-ce qui suffit pour qu'il puisse réussir, quel contrôle peut-il avoir sur son action, y a-t-il plusieurs phases, etc. Et donc, on présente ça aux étudiants. En fait, l'analyse a priori, le sujet, on le traite dans le cadre des ateliers de didactique de la physique, peut-être après 2 mois. L'année passée, c'était tombé au mois de novembre, et puis cette année, on l'a fait au début décembre, quelque chose comme ça. Donc, ils ont déjà une certaine expérience, puisque nos étudiants qui étudient pour devenir enseignants de physique, en fait, sont dans une situation où ils sont tous en même temps enseignants, puisqu'on manque d'enseignants de physique à Genève, ce qui fait qu'ils trouvent des heures et ils sont engagés. Et on fait ça, on se met ensemble avec les étudiants de chimie qui sont alors eux dans une situation différente. Il y a beaucoup moins d'heures de chimie puisque ça ne s'enseigne qu'au niveau du lycée à Genève. Et donc, eux sont des gens qui font leur formation sans être sûrs de pouvoir un jour avoir une classe. Et on aime bien, avec mes collègues, mélanger les deux groupes puisqu'ils ont un regard différent sur les situations. Ceux qui ont des classes sont complètement dans le pragmatique et puis ceux qui sortent de l'université et puis qui ne savent pas s'ils auront un jour un enseignement sont beaucoup plus théoriciens. Ils ne savent pas très bien ce que sont des élèves et les difficultés. Alors voilà. Donc on leur fait un petit topo, etc. On leur donne quelques points à prendre en compte quand on fait l'analyse a priori d'une tâche. Et puis moi, je ne vais pas vous faire le cours que je leur fais, mais l'idée c'était que je vous montre un tout petit peu les situations sur lesquelles on met au travail pour attendre plutôt vos critiques et vos remarques. Je suis prête à changer s'il faut. Alors, d'abord, on travaille sur un exemple qu'on tire du site WebFiz, qui est en fait le site pour le groupe de physique du cycle d'orientation Genevois. Et on a choisi des activités justement qui sont un peu à cheval entre la physique et la chimie, de façon à ce que les chimistes y trouvent aussi leur intérêt. Parce que ce genre de questions qui sont posées là sur le changement d'état physique, en fait, s'enseigne au secondaire obligatoire en physique et puis se reprennent au poste obligatoire, c'est-à-dire au niveau du lycée, mais aussi dans les autres écoles. On a des écoles qui s'appellent des écoles qui amènent à des diplômes, donc qui sont moins exigeantes que le baccalauréat. Ça pourrait peut-être correspondre à vos baccalauréats professionnels ou quelque chose comme ça. Et dans ces écoles-là, en fait, on reprend ces idées de changement d'état, puis ça rentre plus dans les cours de chimie. Donc ça intéresse bien les... Alors on prend un exercice comme ça qui se trouve, qui est proposé aux enseignants Genevois et qui, moi, m'emballe pas personnellement follement, mais enfin, puisqu'il est là, on aime bien que les étudiants y réfléchissent. Et puis là, on fait l'exercice avec eux de travailler. Je vais pas vous le montrer, on le fait en direct. Et puis ensuite, on les met un peu plus en situation. Donc on prend cet exercice-là qui nous plaît mieux avec mon collègue chimiste et on leur propose ça, de réfléchir d'abord. Là, on amène le matériel, bon, il n'est pas très compliqué, et l'idée c'est que est-ce qu'on peut déterminer expérimentalement l'épaisseur d'une feuille d'aluminium, des papiers de rouleaux d'aluminium qu'on achète dans le commerce, Et puis on met une question qui plaît un peu plus aux chimistes pour que les chimistes aient aussi l'impression qu'ils ont quelque chose à faire là. Et donc on rajoute, mais ça va aussi en physique atomique, voilà. Et donc on met les étudiants en recherche. Et qu'est-ce que je peux dire ? Je peux dire que là, comme le matériel est listé, c'est peut-être... ça induit beaucoup plus la méthode vers laquelle on veut aller et qui, après nos expériences, est quand même la méthode qui donne le résultat le plus correct, c'est-à-dire en pesant une feuille d'air 10 cm sur 10 cm, par exemple, et puis en calculant l'aide de la masse volumique. Comme, en fait, on ne leur donne pas la liste du matériel, ils commencent tous à vouloir faire une boulette de papier d'alu, à le mettre dans un cylindre gradué, ou bien faire beaucoup, beaucoup, en empilement de beaucoup de feuilles, puis essayer de mesurer au pied à coulisses. Et puis, on se rend compte assez rapidement, enfin, ils se rendent compte d'eux-mêmes, là, on les laisse travailler, que ça ne marche pas, que les résultats sont très différents. Suivant la façon dont on presse l'aluminium ou suivant la façon dont on empile le papier. Et donc, assez rapidement, ils en viennent tous à l'idée de demander une balance et puis de dire est-ce que c'est pas la méthode à masse volumique. Puis voilà, donc là, on se dit est-ce que ça, c'est une activité pour me faire un peu le lien avec ce que vous avez présenté au début de séminaire. Est-ce que ça, c'est une activité qui serait de l'investigation ou une démarche d'investigation ou quelque chose comme ça? Donc moi, je vous la propose. Après, je vais vous montrer encore deux autres. Mais à la limite, je serais intéressée à ce que vous preniez position par rapport à ça. Voilà, je vous dis ce que je fais. Après...
Je me pose une question là. Il y aura toujours des groupes qui arrivent... plus vite, ce que vous avez dit, de demander une balance, tout ça. Comment faire pour que les autres groupes continuent avec ses propres recherches sans copier les idées des autres groupes?
On essaye de les isoler. Hein. Là, cette année, on a 11 étudiants en chimie et puis 9 en physique. L'année d'avant, on en avait 7 en physique et 4 en chimie. C'est pas très difficile d'avoir des salles séparées. Mais en plus... Je veux dire, c'est quand même des adultes. Donc, on joue le jeu des élèves jusqu'à un certain point. Donc, d'ailleurs, on a eu des débats sur ceux qui disaient, mais moi, ma méthode, en faisant une boulette vraiment très, très, très serrée, ça marche très bien, etc. Donc, on a eu des débats relativement intéressants. On n'est pas là pour tester ce qu'ils savent, ils le savent. Donc, ce qui nous semble intéressant avec cette activité, c'est une activité qui peut se faire soit en fin d'école obligatoire. La dernière année, on traite de la matière et entre autres, dans les objectifs, il est dit qu'il faut utiliser la masse volumique pour déterminer la matière d'un corps, d'un objet. Et puis, au début du poste obligatoire, au début des écoles qui suivent, parce que là, ils doivent retravailler la masse volumique. Donc, l'idée, c'est que la masse volumique soit amenée, non pas... comme une théorie qu'on apprend avec une formule et tout, mais que d'abord, elle puisse être un outil pour résoudre des problèmes. Donc, j'étais très sensible à ce qu'a dit Sylvie ce matin. Moi, l'article de Régine Douady avec la dialectique outil-objet me parle énormément. Et je pense que toutes les fois où une notion a un statut d'outils pour permettre de résoudre une classe de problèmes, je pense qu'on permet d'aller plus loin. Après, on peut l'étudier en elle-même.
Alors, ça concerne des étudiants, c'est ça, je me trompe?
Oui.
Pas. Quelles consignes ils ont? Est-ce qu'ils ont comme consigne, il faut une proposition de manip, et puis ça marche ou ça marche pas? Est-ce qu'ils ont la consigne de trouver autre chose, point, ou de prendre du temps sur d'essayer d'expliquer ce qui a pu marcher, ce qui n'a pas pu marcher, d'essayer juste d'expliquer pourquoi ils ont fait ça, pourquoi c'était finalement peut-être pas la bonne idée.
Non, alors on est plus sur l'idée de faire l'analyse a priori de l'activité. Donc on leur fait vivre l'activité et puis après on essaye de leur demander. Alors on a fait un truc avec des étapes, c'est discutable, mais on aimerait bien qu'ils... Je crois que je l'ai mis... Attendez, je vais voir si ça vient après. Voilà, on a ça. Donc, une fois qu'ils ont résolu le problème, on leur demande de faire ce petit travail. Donc, insertion de la tâche dans le programme, comment, où ils le mettraient. avant ou après d'avoir l'introduction de la masse volumique, typiquement, avant ou après un travail sur des mesures, etc. Ensuite, ben, le contexte scolaire, on aimerait bien qu'il se projette dans une situation particulière d'une classe particulière, parce qu'on ne travaille pas de la même façon avec des plus petits et des plus grands. On aimerait bien qu'ils remettent en cause la consigne, j'entends telle qu'elle est formulée là, que je voulais montrer. Hein. C'est plus fort en fait sur celle-ci, où la remise en cause de la consigne est très forte de leur part. Mais disons que là aussi, on peut leur demander de reformuler la consigne pour qu'elle soit plus apte, plus adaptés à leurs élèves. Ensuite, on leur demande de réfléchir un petit peu à l'organisation du milieu. Donc, on leur fait une définition de ce que c'est que le milieu, etc. De façon à ce qu'ils réfléchissent, est-ce qu'il faut vraiment que les balances soient là, sur le chariot, tout devant, ou est-ce qu'il vaut mieux que le matériel vienne au fur et à mesure que les élèves le demandent. Bon, ça se discute, hein, et je ne crois pas qu'il y ait de solution plus juste qu'une autre. Mais enfin, on fait autre chose en fonction de ce qu'on veut faire. Ensuite, on demande qu'ils réfléchissent un tout petit peu aux prérequis, aux objectifs d'apprentissage spécifiques de l'activité, etc. Donc, on leur demande, une fois qu'ils ont résolu le problème, de jouer le rôle de prof et de faire l'analyse de l'activité en fonction des élèves. On en arrive même avec l'idée de faire un peu une liste des procédures correctes, mais aussi des erronées. Et puis, on leur demande même d'essayer d'imaginer quelle est la probabilité d'apparition de certaines procédures erronées, parce qu'on trouve que c'est intéressant qu'ils disent oui, ça c'est... Parce qu'à un certain moment, quand on leur demande des procédures erronées, ils vous trouvent des procédures erronées absolument extraordinaires, mais alors il faut vraiment se lever tôt pour imaginer cette procédure. Donc à un certain moment, on leur dit, attendez, non, mais restons dans ce qui est probable avec des élèves, les élèves des élèves que vous avez. Et puis on travaille pas mal sur le concept de variable didactique, parce que là, je crois que c'est relativement important. Puis ce qui nous semble important, c'est d'avoir une activité qui est un pan expérimental, parce que c'est toujours beaucoup plus facile en physique de faire des exercices papier-crayon et puis de dire que ou de ne faire de l'expérimental qu'une fois, hein. On fait la belle expérience de mesure de la masse volumique avec des cubes de différentes matières, de différentes formes. Après, on prend une pierre et puis on constate qu'on ne peut pas calculer le volume, alors on doit le mesurer directement. Enfin, les gens font ça. Mais après, la masse volumique, elle devient un truc où on ne fait plus que du calcul. Alors, et encore, parce qu'au niveau du secondaire 1, il y a une consigne actuellement, il ne faut plus qu'il y ait de formule. Donc, il n'y a qu'une formule, c'est celle de la masse volumique. Donc, les enseignants n'en font pas trop. Mais voilà, c'est pour dire, voyez, une fois que vous avez parlé de la masse volumique, peut-être qu'on peut avoir d'autres activités qui font appel à la masse volumique et qui sont aussi expérimentales. Et qui, en plus, ont un lien avec la vie de tous les jours. Alors, je ne sais pas quel est l'intérêt réel des élèves de chercher l'épaisseur d'une feuille d'aluminium, mais quelques bons élèves qui jouent vraiment le jeu de l'élève, ils peuvent être intéressés. Voilà. Et puis sinon, je voulais encore montrer quelque chose, mais... Oui. Mais je passe sur autre chose. Donc, par rapport à cette activité-là, si c'est si par rapport à cette activité...
En fait, tu as répondu à ma question par ce transparent. Celui-là.
Oui.
Parce qu'en fait, je me demandais quel était l'enjeu d'apprentissage pour les professeurs. De cette activité que tu donnais. Et parce que si... Et je comprends mieux, en fait, c'est être capable de travailler sur l'insertion dans le programme, etc.
Oui.
Parce que l'enjeu pour les élèves, il est complètement différent si les élèves connaissent la masse volumique ou pas.
Oui. Et donc, c'est très important d'en discuter avec
voilà.
les...
Voilà, ça, elle n'a plus le même sens, et elle n'a plus la même fonction, et voilà,
ouais.
C'est tout.
Oui, oui. Non, mais absolument. Puis alors, après, bon, je suis pas très riche en matériel, mais ce que j'aime bien, c'est essayer de faire aussi un lien entre une analyse a priori et une analyse a posteriori. Alors, j'ai une vidéo d'un enseignant expérimenté qui a fait cet exercice dans sa classe. Alors voilà, on a un chariot qui est immobile, puisque c'est en première année du collège, l'équivalent du lycée, puis on est censé travailler que sur des situations statiques. Et l'enseignant montre donc cette image. Donc moi, ce que je fais, c'est que je donne la feuille ce que vous voyez là avec les consignes aux étudiants la semaine où on finit sur la masse volumique, puis je leur demande de réfléchir pour la semaine suivante comment ils géreraient une telle activité si vous voulez l'enseigner en classe. Et on discute de l'énoncé, des choses comme ça. Et puis ensuite, l'avantage, c'est que j'ai la vidéo de l'enseignant qui la traite en classe. Et donc, du coup, on fait une fois qu'eux ont projeté leur propre cours dans cette situation-là, alors certains refusent en disant « mais moi, j'enseignerai jamais comme ça », bon, voilà. Mais d'autres sont d'accord de jouer le jeu, puis essayent de réfléchir et disent comment ils l'enseigneraient. Et ensuite, on montre la vidéo et puis on discute des écarts entre ce qu'eux avaient prévu et ce que l'enseignant fait. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai une interview de l'enseignant où il dit un petit peu ce qu'il voulait faire avec cette leçon. Et alors, on peut mesurer, entre guillemets, les écarts entre ce que l'enseignant avait prévu et ce que l'enseignant fait réellement en classe. Et constater, par exemple, un gros problème lié au fait que là, les élèves, que se passe-t-il avec le chariot si la masse M1 est plus haute que la masse M2 ? Alors là, les élèves, ils comprennent pas cette consigne. Et donc, il y a une énorme discussion, parce qu'il les met en groupe et il les met au travail expérimental. Et il y a une énorme discussion de savoir ce que ça veut dire plus haut entre les élèves. Et puis, une autre chose, et ça, l'enseignant ne le gère pas très, très bien, il y a le fait que les élèves, ils mettent les mêmes masses des deux côtés, puis ils disent, de toute façon, ça ne va pas bouger, on le sait, c'est évident. Là, je pense que c'est intéressant par rapport aux connaissances sensibles qu'ont les élèves. Et voilà. Et puis, en fait, les chariots sont quand même sur des rails, et il n'y a pas beaucoup de résistance et tout. Et donc, si on touche d'un côté, si on descend d'un côté, après, par inertie, ça continue un petit moment. Et là, il y a un débat très intéressant dans un groupe d'élèves, où il y en a qui disent, mais ça bouge. Et puis l'autre qui dit, mais non, ça bouge pas. Puis alors, c'est très intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire, bouger et pas bouger? Ben, je crois qu'on l'a abordé un petit peu l'autre jour. C'est, en fait, le fait qu'ils trouvent une autre position stable, pour des tas d'élèves, ça veut dire qu'entre deux, ça bougeait, qu'il y a mouvement. Et puis d'autres qui sont peut-être plus du côté du modèle théorique, disent, non, mais ça n'a pas d'importance. On regarde à un moment donné. Et voilà, et des choses comme ça, moi je trouve que ça permet de faire réfléchir les étudiants sur ce que les élèves pensent et sur la différence entre ce que le prof pense enseigner et ce que les élèves retirent vraiment d'un enseignement. Donc pour moi c'est très riche et ce que je regrette c'est de ne pas avoir plus de vidéos à leur montrer sur lesquelles les faire réfléchir. Mais ça prend déjà pas mal de temps comme ça.